Aujourd'hui, on va donc parler des émotions. Et vous avez la fiche numéro 5 hein, pour ce cours 5.05 sur la théologie pratique et sur l'accompagnement pastoral. Les émotions, c'est quelque chose de très simple dans un sens. C'est aussi quelque chose de très particulier parce qu'il y a des gens qui vivent pleinement leurs émotions, peut-être. Et surtout les femmes, et des gens qui les vivent très peu, peut-être et surtout les hommes. Autrement dit, quand des hommes sont ensemble et que on se dit ça va, on dit oui, ça va. Alors que quand des femmes se parlent ensemble et disent ça va, et alors il y a beaucoup plus de choses qui ressortent, et la vie émotionnelle n'est pas forcément très différente, mais voilà, on a besoin d'entrer dans ce sujet. Et surtout du côté pastoral, parce que dans la pratique pastorale, on va utiliser les émotions, on va permettre aux souffrants de vivre ces émotions et de les identifier, et on va, nous, en tant qu'accompagnants, utiliser ces émotions comme élément de diagnostic, comme élément de repère. Alors, je fais une toute petite parenthèse synthétique. Pour vous proposer assez rapidement, à partir des trois clés dont nous avons déjà pas mal parlé, qui sont déterminer la souffrance, premièrement, deuxièmement, déterminer la responsabilité, troisièmement, déterminer la volonté de Dieu. À partir de ces trois clés très simples, dans la première chose, déterminer la souffrance, alors il y a qu'est-ce que je ressens? Et vous avez un tableau hein, que je vous ai passé en test. Qu'est-ce que je ressens? Ce que je ressens m'indiquant ce qui se passe en moi, c'est à moi d'écouter. Mais dans les éléments de souffrance, il y a qu'est-ce que je ressens, il y a à quoi est-ce que je pense, il y a quelles sont les personnes que je ne désire pas rencontrer, quelles sont les circonstances qui sont douloureuses, quels sont les sujets qui sont un peu tabous, quels sont les souvenirs qui me hantent et qui m'obsèdent, quels sont les cauchemars que je fais. Donc vous avez intérêt à avoir un peu dans votre panoplie, panoplos, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les armes. Hein, dans votre panoplie, vous avez intérêt à avoir immédiatement quelque chose d'un peu complet à l'égard de la souffrance. Hein. Je peux souffrir dans ce que je ressens, dans ce que je pense, dans ce que je fais de différentes manières, dans les souvenirs que j'ai, dans les cauchemars, etc. Et si vous avez ça vraiment rapidement dans la main, alors quand quelqu'un vous dit je souffre mais je ne sais pas très bien par quoi commencer, vous pouvez dire mais qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Hein, voilà. Est-ce que vous êtes en colère parce que vous avez été obligé de venir me voir? Est-ce que vous avez peur parce que vous craignez de me dire quelque chose? Est-ce que vous êtes insatisfait de votre vie? Est-ce que vous êtes fébrile parce que les circonstances vous troublent? Etc. Et de ce point de vue-là, les 12 familles d'émotions ou de ressentis que nous allons considérer ce matin vous permettront d'avoir quelque chose de très précis, d'assez facile pour entrer dans tout ça. Alors, je vais essayer ce matin de vous donner l'essentiel sur les émotions. Habituellement, j'ai un PowerPoint sur ce genre de sujet, mais mettons qu'en 55 minutes, c'est un peu court. Je préfère que c'est un peu court de faire la présentation du PowerPoint. Je préfère qu'on reste vraiment sur l'essentiel. Et l'essentiel, je l'ai donc mis sur la feuille. On va entrer dans tout ça. Première chose, c'est que l'histoire pour nous a un poids. J'ai mis cette citation de Blaise Pascal, guerre intestine de l'homme entre la raison et les passions. S'il n'y avait que la raison sans passion, s'il n'y avait que les passions sans raison, mais ayant l'un et l'autre, il ne peut être sans guerre. Ne pouvant avoir la paix avec l'un qu'ayant guerre avec l'autre, ainsi il est toujours divisé et contraire à lui-même. Alors on est au XVIIe siècle, hein, Pascal est né, je crois, en 1623, hein, il a vécu 39 ans, et dans son siècle il dit peut-être ça, mais je pense, aujourd'hui, je pense que ses propos sont majoritairement le propos d'un homme. Et un homme est souvent embarrassé avec ce qu'il ressent, et il est un peu tiraillé parce que quand il ressent des choses, alors il ne sait pas trop qu'en faire, il ne sait pas trop le préciser, et il a besoin de prendre du recul pour savoir comment vivre sereinement tout cela. Après, ça dépend des hommes, ça dépend de l'éducation. On va voir ce que pourrait être, comment dire, avec ce poids de l'histoire, on va voir comment est-ce qu'on peut s'en dégager relativement facilement. L'important, je disais hier ou avant-hier à quelqu'un qui est hier, puisque avant-hier c'était dimanche, non, dimanche soir, tiens, à quelqu'un qui est venu me trouver, que l'important, ce n'est pas ce que nous avons vécu dans notre histoire. Ça, c'est très important, je crois qu'il faut bien que vous le notiez. L'important, ce n'est pas ce que nous avons vécu dans notre histoire. L'important, c'est comment nous voyons aujourd'hui ce que nous avons vécu dans notre histoire. Et c'est là où je me distancie assez largement de la psychanalyse. Je ne vais pas, moi, aller revivre en quelque sorte mon passé pour le régler dans le présent. Non, je vais considérer en fait ce qui m'embarrasse dans mon passé et je vais le qualifier, le voir avec lucidité, le voir avec le regard de Dieu dans le présent. Et de ce fait, je vais en quelque sorte établir les choses dans le présent. Est-ce que l'événement traumatique qui s'est passé dans le passé est un handicap pour moi? Non. Ce n'est pas un handicap pour moi parce que Dieu aujourd'hui dans le présent me demande de faire quelque chose avec ça. Est-ce que le souvenir de ce que j'ai vécu dans le passé est quelque chose que je ne devrais pas vivre? Non. Non. Si j'en ai un souvenir, il faut que j'en ai un souvenir qui soit conforme à la volonté de Dieu dans le présent. Donc le passé n'est pas forcément quelque chose qui me pèse. Hein, ce qui me pèse, c'est le regard que j'ai sur mon passé. Et de la même manière, si par exemple des artistes comme la chanteuse Björk, pendant son année très 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 émotionnelle, alors qu'il semble que dans les 10 dernières années, elle soit beaucoup plus sur la technique du chant, si la chanteuse Björk était vraiment dans la vie de l'émotion comme un but ultime, alors, comment dire, il faut pas que j'en sois embarrassé dans mon histoire. Hein, il faut moi que je mette les émotions à leur place. Si au contraire j'ai affaire à des gens, si j'ai eu un père, si j'ai un père qui est tout à fait sec et qui n'exprime jamais rien, eh bien moi je peux prendre cette distance et apprendre à exprimer quelque chose avec simplicité, oui, reconnaître je suis en colère ou je suis ceci ou je suis cela et prendre cette habitude. Même si je n'ai jamais eu l'habitude de le faire avant. Autrement dit, le poids de l'histoire, c'est quelque chose qu'on peut dire de manière arbitraire. Personnellement, je ne dis pas de manière arbitraire, je dis je peux toujours faire ce que Dieu me demande. Autrement dit, il est écrit, par exemple, en Éphésiens 4, 26, dans le grec, c'est un impératif, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Autrement dit, j'ai à apprendre à me mettre en colère, j'ai à apprendre à vivre mes émotions. Donc, pour aborder ce sujet des émotions de manière générale, on va parler du bonheur de manière intuitive. Qu'est-ce que ça pourrait être le bonheur, finalement, vu que dans les conditions dans lesquelles nous vivons, c'est peut-être difficile de sortir du point de vue philosophique. Je vois qu'ici, il y a la philosophie pour les nuls. Donc, voilà, on peut rentrer dans tout ça en étant, en se disant, ben tiens, voilà, dans ma petite bulle, hein, je peux vraiment être heureux. Non, je crois que Dieu nous appelle à être heureux dans les circonstances dans lesquelles nous trouvons. Et si nous arrivons à mettre cela en œuvre, c'est d'ailleurs un peu le thème de votre devoir, finalement, si nous arrivons à mettre cela en œuvre, alors nous pourrons accompagner quelqu'un dans cette même perspective. Si on a intégré pour nous-mêmes le moyen d'être heureux, alors c'est sûr que la personne qui viendra nous voir, finalement, on verra dans nos perspectives personnelles comment aborder ce bonheur. On n'aura pas trop de mal à lui en parler. L'intuition du bonheur. 1 Timothée 1,11, nous dit que Dieu est le Dieu bienheureux. C'est juste une expression que j'ai voulu garder. De la même manière, quand le Messie vient sur la terre, en Matthieu 5, verset 1, quel est lui qui vient régner sur Israël, qui est celui qui, Messie, qui veut dire oint, hein, qui est oint pour régner, qu'est-ce qu'il va déclarer à ceux qui veulent l'entendre, à cette foule, et à ceux qui le suivent, à ses disciples? Il va déclarer, son discours, on va dire, de propagande, hein, c'est peut-être un peu choquant de le dire comme ça, mais c'est tout à fait ça, son discours commence par 9, béatitude, bienheureux. Alors, voilà le programme de Dieu. Dieu nous appelle à être bienheureux, et on pourrait dire que c'est un peu le cœur de ces 12 heures que je vous propose d'entendre. À nous de savoir comment nous dépatouiller avec ça. Qu'est-ce qu'on va garder de ce bonheur? Alors, si on regarde qui a été Jésus dans l'Évangile, on voit, alors là, je suis les notes que j'ai prises pour vous. Jean 13, verset 1, « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin. » Donc, on voit ici que Jésus éprouve des sentiments à l'égard des siens. Et ces sentiments, l'amour, il faudra qu'on en parle. On va en parler dans Construire son bonheur. Je voudrais simplement noter que chez Jésus, je n'ai pas cherché à voir quelles étaient les premières émotions qui ressortaient dans les évangiles. Hein, je les ai pris un peu pêle-mêle. Voilà, chez Jésus, il y a de l'amour. Chez Dieu, hein, Luc 2, 14, « Bon plaisir parmi les hommes, disent les anges. Hein, » Dieu veut du plaisir. Dieu dit trois fois dans l'Évangile, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. » Et en grec, avoir du plaisir dans le Nouveau Testament, c'est « eudokeo », autrement dit « considéré comme bon ». Hein, on va un peu entrer dans tout ça. Hein, donc on pourrait dire que là, il y a des états d'âme de Dieu et qui participent à son bonheur. Marc, alors j'ai mis Marc 5, verset 3, je crois que c'est Marc, vérifié, je ne sais pas si c'est Marc 5, 3 ou Marc 3, verset 5. Je pense que c'est plutôt Marc 3, verset 5. Ici, on a Jésus qui est dans la synagogue et qui est face à quelqu'un qui a un bras paralysé, hein, qui a un problème. C'est 3, verset 5? Merci. Donc, Jésus dans la synagogue, il veut guérir cet homme, et il se trouve face à des personnes, les chefs religieux, les pharisiens, en fait, qui cherchent en fait, à le critiquer, à le faire tomber. Et donc, il est écrit dans ce passage, et Jésus, les ayant regardés avec tristesse, étant en colère à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà donc voilà ce que ressent Dieu. Et la colère de Dieu, d'ailleurs, c'est quelque chose qui commence très vite. Le courroux de Dieu, la colère de Dieu, hein, qui commence très vite dans la Genèse et qui est encore là dans l'Apocalypse. Hein, dans l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 15, il y a les coupes pleines du courroux de Dieu. Et donc, Dieu est en colère, et la colère fait partie de notre bonheur. Il faudra qu'on voit tout ça, qu'on comprenne un peu comment ça peut marcher à nous, peut-être à qui nos parents ont appris qu'il ne faut jamais se mettre en colère. Je ne sais pas ce qu'on vous a appris, mais chez les chrétiens, c'est souvent le cas. Hein, se mettre en colère, ah non, c'est pas bon, et donc on essaye de ne pas se mettre en colère, du coup on rentre tout ça, et quelquefois on se retrouve avec des ulcères à l'estomac. Ensuite, en Jean 12, 27, le Seigneur Jésus dit « Mon âme est troublée hein, ». Il dit même « Mon âme est troublée jusqu'à mourir hein, ». Autrement dit, il a un poids sur l'âme, il a des états d'âme qui sont des états d'âme normaux, et qui sont des choses qui participent à notre bonheur. Et nous, on pourrait dire que quand nous regardons les gens qui ont accompagné Jésus, on voit par exemple Pierre, qui est celui qui était toujours devant, celui qui est toujours tombé le premier là où il fallait tomber, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire, il a dit aussi ce qu'il fallait dire. Et donc Pierre, c'est quelqu'un qui a l'expérience d'avoir fait des choses qui l'ont touché, qui l'ont remué. Et qu'est-ce qu'il dit en 1 Pierre 1, 22? Il dit, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. Autrement dit, tous ces états d'âme, tout ce bonheur, en fait, il se travaille, il se trouve. Alors, je vous ai mis cet ensemble de versets qui concernent Dieu, qui concernent le Seigneur Jésus, avec Romains 8, 29. Romains 8, 29, qui nous dit que nous avons tous été prédestinés à être conformes à l'image du Fils de Dieu. Je l'entends. Alors, je ne veux pas faire de remarques sur la prédestination, on pourra le faire pendant la pause si vous voulez. Intéressant de voir qu'il y a trois versets qui en parlent, hein, Romains 8, 29, Éphésiens 1, verset 4, je crois, et verset 10 ou 11, verset 11. Donc intéressant de voir l'explicite de la prédestination, mais nous avons été prédestinés en Romains 8, 29, à mon sens, à être humains, à être conformes à l'image du Fils de Dieu. Autrement dit, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Et j'entends dans le milieu chrétien très souvent le fait que Dieu, en devenant homme, s'est anéanti. Moi, dans mon enfance, j'ai entendu que Dieu, en fait, avait créé des fourmis, il est devenu fourmi pour être fourmi avec elles. Et je proteste devant cette réalité. Non, non, nous avons été créés à l'image de Dieu. Hein, nous sommes, nous, à la ressemblance de Dieu. Et donc, quand nous regardons les émotions de Jésus, le Christ, le Seigneur, le Sauveur, dans les évangiles, alors nous avons à apprendre beaucoup de choses. Alors, les émotions. On va en prendre quelques-unes pour essayer de donner quelques indications. Ésaïe 53,11, c'est donc une prophétie que dans le contexte duquel je ne souhaite pas rentrer, mais je vais quand même vous dire très rapidement qu'Ésaïe est constitué de trois parties, à mon sens. Hein, Ésaïe 1 à 35, première partie, deuxième partie 36 à 39, troisième partie 40 à 66. Et on pourrait dire que dans la première partie, il y a essentiellement des avertissements à Israël aux nations. Dans la deuxième partie, il y a le pivot historique, qui est le moment où, en quelque sorte, entre guillemets, Dieu décide de transporter Israël et de le rendre captif par Nebuchadnezzar sous le roi Ézéchias. Et dans la troisième partie, chapitre 40 à 66, il y a trois parties. La première, c'est l'annonce de la délivrance de Nebuchadnezzar par Cyrus. Et il est question sept fois de Cyrus dans cette première partie, chapitre 40 à 48. Chapitre 49 à 57, c'est l'annonce de celui qui va délivrer le Christ souffrant et qu'on voit en Ésaïe 53. Et chapitre donc 58 à 66, c'est l'annonce de la délivrance de Jérusalem qui se fera de différentes manières et notamment dans la venue du Messie au chapitre 63. Je ne donne pas plus de détails. Mais dans cette deuxième partie, chapitre 49 à 57, hein, j'entends que le Messie souffrant est décrit et que de manière prophétique, il est dit au verset 11 du chapitre 53, il verra du fruit du travail de son âme et il en sera satisfait. La satisfaction, vous voyez ici que j'ai fait un petit tableau, hein, dans cette feuille que je vous ai distribuée, un petit tableau avec 12 états d'âme, 12 émotions. Et dans la première colonne et le deuxième rang, il y a la satisfaction et l'insatisfaction. Alors, il faut que vous sachiez, mais vous le savez peut-être certainement tous, que la psychologie moderne a défini quatre émotions de base, qui sont la colère, la peur, la tristesse et la joie. Hein, c'est ce qui résulte des travaux de la psychologie et qui va dire avec cette affirmation que ce sont des émotions de base, ce sont des émotions qui, après, se mélangent. Et par exemple, la honte est un mélange de colère et de peur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les perspectives de la psychologie, simplement vous dire que dans mon regard général sur les épîtres, et avec quelque chose que on va voir de plus en plus dans le tableau que je vous ai donné, le tableau général, je pense que enfin, j'ai vu, mettons, les émotions de manière très différente, avec quand même deux grandes familles. Regardez-moi, s'il vous plaît, parce que c'est plus facile. Ici, vous avez, avec paix, satisfaction et sérénité, les émotions, les états d'âme ou les sentiments de la famille de la justice. Hein, colonne de gauche pour vous. Ensuite, avec l'amour, le plaisir et la joie, les émotions de la famille du prix. Donc je répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Dans la colonne de gauche, les émotions de la famille de la justice. Autrement dit, ce qui est juste procure à l'égard. Alors attention, regardez-moi bien, hein, avant d'écrire. Ce qui est juste procure à l'égard des personnes, premier rang, la paix, à l'égard de ce que je fais, les actions, la satisfaction, et à l'égard de mon regard sur les circonstances, voyant que c'est juste, produit de la sérénité. Hein, je vous laisse l'écrire. À l'égard des personnes, premier rang, à l'égard des actions, deuxième rang, à l'égard des circonstances, troisième rang. Autrement dit, je vois dans tout cela une grande cohérence que je vous ai mise ici dans ce tableau sur les états d'âme et que vous avez. Hein, dans vos tests, vous avez tout en bas que les émotions de colère, en fait, sont des émotions qui touchent à la justice dans la relation. Alors, c'est un peu, peut-être un peu compliqué pour vous, mais finalement, c'est très simple. On va le voir dans trouver la paix, trouver l'amour, trouver la satisfaction, etc. Mais ce tableau ici, qui est une partie du grand tableau que je vous ai donné de l'ensemble des épîtres, est un tableau général et cohérent, en fait, de nos états d'âme, et qui montre bien que nos états d'âme proviennent de quelque chose. Vous retenez donc deux rangs, la justice et le prix, et trois, non, pardon, deux colonnes, la justice, le prix, et trois rangs qui sont les personnes, les actions, les circonstances. Deux colonnes, trois rangs, ça fait donc six catégories. Et dans chaque catégorie, vous avez quelque chose et son opposé. Alors, par exemple, dans Ésaïe 53,11, il verra du travail de son âme et il en sera satisfait. Vous notez que la satisfaction provient de l'action. C'est pour ça que j'ai mis ici la satisfaction dans ce tableau-là. Ça va être de ce qui va résulter de la justesse de ce que je fais. Il verra du travail de son âme et il en sera satisfait. On va rester pour l'instant dans des généralités sur les émotions. Je vous ai mis description et définition des émotions. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps pour me rendre compte, comment est-ce que je veux dire ça, de la différence entre la satisfaction et le plaisir. Quand j'avais 20-25 ans, ben, je ne me posais pas la question. Ce que je le faisais. Quand je m'achetais un notebook, non, parce que ça n'existait pas encore, quand je faisais quelque chose, j'en avais du plaisir ou j'en étais satisfait, mais je ne me le formulais pas particulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas conscience de la différence entre la satisfaction et le plaisir. Ce qui fait qu'en fait, quand je n'avais pas de satisfaction, je n'avais pas de levier pour me satisfaire. Est-ce que vous m'avez suivi là? Il faut que je le recommence parce que c'est tôt le matin là. Hein. C'est que, en fait, si je n'ai pas conscience du manque, je ne peux pas combler mon manque. Si je n'ai pas conscience que j'ai froid, ben, je ne vais pas mettre un pull. Si je n'ai pas conscience qu'il me manque la satisfaction, je ne vais pas faire ce qu'il faut pour être satisfait. Si je n'ai pas conscience de la différence entre la satisfaction et le plaisir, alors je vais vraiment être embarrassé pour être satisfait. Si donc quelqu'un vient vous voir et dit, ben moi je ne sais pas, ma vie est creuse. Et qu'est-ce qui vous arrive? Ben je ne sais pas. Et ben si vous ne savez pas, ben moi non plus. Ah oui, mais alors si vous êtes là pour m'aider, ben comment est-ce qu'on fait en fait? Et c'est pour ça qu'on a intérêt à systématiser les choses et à poser la question aux gens, ben est-ce que vous êtes en paix avec tout le monde? Il y a des gens avec qui vous êtes en bisbille? Il y a des gens avec qui vous, auprès de qui vous avez de la rancœur? Il y a des gens que vous ne voulez pas rencontrer? Est-ce que vous savez aimer? Est-ce que vous savez aimer votre prochain? L'amour. Est-ce que vous récoltez l'amour quand vous êtes avec votre prochain? Est-ce que, en tant que chargé de cours à la faculté de théologie, quand vous avez des étudiants devant vous, est-ce que vous savez les aimer? Est-ce que vous savez les apprécier? Parce que aimer, c'est donner du prix à une personne. Ou bien est-ce que vous êtes complètement dans votre cours et qu'en fait, vous vous en foutez pas mal des étudiants? Parce que ce qui vous intéresse, c'est qu'on considère que vous en avez plein la tête, en fait, hein, et que vous êtes vachement capable. Mais par contre, on va se dire, waouh, au niveau relationnel, c'est quand même pas top. Hein, c'est vrai qu'il connaît beaucoup de choses, mais il n'est pas très accessible. Et c'est difficile de lui parler. Ah. Donc là, c'est quelqu'un qui sera peut-être très satisfait de lui-même, mais qui ne sera pas très aimable ou pas capable de rentrer dans une relation avec l'autre. Alors, voyez, si on, avec ce tableau, quand on le comprend bien et quand on est bien dans cette simplicité, on va voir comment est-ce qu'on peut aider efficacement quelqu'un. 1 Thessaloniciens 4,13 nous dit, on va rentrer dans la définition en se rendant compte que la description des émotions est quelque chose de difficile parce qu'il y en a énormément. Ici, j'ai essayé de faire une... Alors tout ça, je l'ai trouvé nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, cette classification, c'est personnel. Et donc, s'il y a des progrès à y faire, ben, merci pour vos remarques. Hein, je suis tout à fait preneur. Mais des états d'âme, il y en a quantité, et je ne les ai pas tous mis sur cette feuille. Donc, c'est difficile de tous les décrire, mais par contre, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est rentrer dans une définition. 1 Thessaloniciens 4,13, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères et sœurs, à l'égard de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas affligés, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors, si vous entendez bien cette expression, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants à l'égard de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On se rend compte que l'affliction, qui est un état d'âme qu'on pourrait dire général, hein, l'affliction, ça veut dire, ben, je suis en colère contre Dieu parce que quelqu'un de ma famille est mort, hein, je suis en carence d'amour, parce qu'en fait, il y a une séparation. Je suis insatisfait parce que ce qui se passe dans ma vie, ben, ça ne me satisfait pas. Je suis frustré parce que ben, comment voulez-vous avoir du plaisir là-dedans? Je suis fébrile parce que la mort va toucher après quelqu'un d'autre, etc. Et je suis triste. Autrement dit, l'affliction, ça peut être un peu la somme de tout ça dans ma vie. Et donc, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants à l'égard de ceux qui sont morts afin que vous ne soyez pas affligés. Vous vous rendez compte que peut-être, dans la mesure où nous avons dans notre cerveau, en principe tout le monde, un cerveau droit et un cerveau gauche, eh bien il semblerait que le cerveau gauche nous permette d'être adroit et que le cerveau droit est plus un cerveau intuitif, créatif, etc. Et est gauche finalement, mais quelqu'un qui est gaucher est quelqu'un de brillant, quelqu'un de très rapide, quelqu'un de très intuitif, de très créatif et capable de faire des choses qui dépassent les droitiers. Au tennis, par exemple, souvent les gauchers posent beaucoup de mal aux droitiers parce que, en fait, les droitiers sont perdus, ce sont des gens plutôt besogneux et les gauchers plutôt, plutôt créatifs. Alors, il semblerait que ces deux parties du cerveau soient très différentes et en même temps extrêmement complémentaires et que les femmes les utilisent les deux en même temps alors que les hommes sont plutôt tout l'un ou tout l'autre. Ça, après, suivant les scientifiques auxquels on a affaire, On va vous dire oui, non, non. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est que dans 1 Thessaloniciens 4,13, il est dit, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, ce qui est un pôle rationnel, ignorant, afin que vous ne soyez pas affligés, pôle émotionnel. Et si vous lisez l'ensemble de la Bible une fois dans cette perspective-là, vous allez voir qu'effectivement, très souvent dans la Bible, ces deux pôles-là correspondent et que le pôle émotionnel provient du pôle rationnel. Autrement dit, nos émotions ne viennent pas de nulle part. Nos émotions, c'est un peu comme je l'ai dit juste après, une fenêtre sur nos pensées. C'est un peu le fruit irrationnel de nos pensées. Ce que je ressens et qui se lit complètement sur mon visage et que je lis sur vos visages. Ce que je ressens, c'est ce qui provient de ce que je cultive. Et donc un jour, quelqu'un qui était dans une forte colère contre ses enfants me dit, ah oui, mais moi, de toute façon, quand je suis avec eux, je ne leur en parle jamais. Je lui dis, mais tout ce que tu entretiens dans le regard que tu as sur tes enfants, il se voit sur ton visage, sur ton comportement, il se lit dans tout ce que tu transpires émotionnellement. Les émotions, c'est la partie irrationnelle du langage. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez encadrer. Hein, c'est la partie rationnelle du langage. Irrationnelle. Hébreux 12, 3 nous dit considérez celui qui a été l'objet de la contradiction de la part des pécheurs, afin que, Hébreux 12, 3, que vous ne soyez pas découragés, étant lassés dans vos âmes. Là aussi, pôle émotionnel, on voit le découragement et la lassitude dans l'âme. Et le pôle rationnel, c'est considérer celui qui a été l'objet de la contradiction de la part des pécheurs. Ah. Donc, il semble bien, avec beaucoup d'exemples qu'on va voir par la suite, qu'il y a ces deux pôles. Les émotions sont une fenêtre sur les pensées. Jean 15, 11, c'est Jésus qui nous dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite, complète. Ce qui est le même mot. Télos, hein, en grec, qui a donné télescope, c'est la complétude, la perfection. Alors, de fait que l'émotion est quelque chose de très très important. Et il y a des gens qui sont complètement dans l'émotion, et des gens qui n'y sont pas, on l'a déjà vu. C'est à nous d'entendre tout ça, mais de commencer par l'entendre chez nous. Comment ça va? Alors, si demain vous allez dire, ou tout à l'heure, enfin demain matin, comment ça va? Si vous commencez par dire, alors je crois que je suis en paix avec tout le monde, hein, ou en tout cas la dernière personne à qui je n'étais pas en paix, etc., ça sera un petit peu long, en fait, de décrire l'ensemble de votre état émotionnel. Comment ça va? Ben ça va. Mais il faudrait que le comment ça va corresponde à cette dynamique spirituelle, où en fait j'entends dans mon état émotionnel ce qui ne va pas pour que dans une vérité devant Dieu, je fasse ce qu'il faut devant Dieu pour que ça aille. Et là, je peux dire effectivement, ça va. Je dirais que un des grands problèmes du souffrant, c'est de ne pas savoir vivre ces émotions douloureuses. Hein, on continue avec ce que nous avons à faire. Vivre l'émotion douloureuse. Éphésiens 4, 26, c'est un impératif. Hein, dans la version seconde, c'est si vous vous mettez en colère. Hein, dans le texte grec, c'est mettez-vous en colère. On voit là peut-être l'influence du romantisme du 19e siècle. Hein, la version seconde est 1880. Et donc, voilà, c'est mettez-vous en colère. Mais vivre des émotions douloureuses, franchement, comment peut-on le souhaiter à quelqu'un? Et au contraire, je dirais que la plupart des gens qui viennent me voir parce que, à l'égard de leurs émotions douloureuses, ils sont complètement dans l'anesthésiant. Et ils prennent de l'anesthésiant tous les jours. Et alors moi, qu'est-ce que je fais? Je commence par enlever l'anesthésiant. Ce qui fait que, venant me voir, ils commencent par être plus mal après qu'avant. Ils me disent, vous savez, je ne sais pas si j'ai bien fait de venir vous voir. Voilà. Et mais il faut apprendre à vivre ces émotions douloureuses, apprendre à avoir peur. Pourquoi? Mais Jésus dit, pourquoi avez-vous peur? Donc, il faut comprendre en fait d'où vient ma colère, ma peur, mon insatisfaction, ma frustration, ma fébrilité, ma tristesse, comme c'est proposé dans ce tableau, mais surtout apprendre à faire face à ces émotions douloureuses. Est-ce que c'est agréable d'aller voir quelqu'un dont on sait que ça, qu'avec lui, ça va mal se passer? Ben non. Et à ce compte-là, est-ce qu'on n'est pas là en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait contourner l'obstacle, hein? Voilà. Et non, je crois que ce que nous avons à faire, il faut le faire. Il faut y rentrer et il faut donc apprendre à vivre l'émotion douloureuse. Et dans les trois clés, la clé souffrance, c'est vraiment faire face à ces souffrances. C'est être d'accord pour les regarder. Le problème, c'est que quand quelqu'un, pendant 20 ans de sa vie, a décidé de ne pas les regarder, alors quand vous lui dites, on va parler de vos souffrances, ils disent, ah non. Ah non, 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 ça fait 20 ans que j'essaie de les éviter, vous n'allez pas me faire parler de mes souffrances. Bon, et c'est là où il faut essayer de trouver un autre moyen d'en parler pour que les personnes regardent leurs souffrances et puissent avoir, par rapport à leurs souffrances, le sens de leurs responsabilités et de ce fait, mettre en œuvre ce que Dieu leur demande. Souvent, on est bloqué parce que, et voilà, nos émotions douloureuses, on les étouffe, hein, et c'est la cocotte, et quand la cocotte explose, ben elle explose. Et à ce compte-là, on est peut-être dans la maladie mentale. Les deux familles d'émotions qui découlent de la justice et du prix, je vais en parler un petit peu, et on voit que là, conformément à ces pôles rationnels et émotionnels, je cultive rationnellement l'injustice, j'aurai émotionnellement la colère à l'égard de quelqu'un, l'insatisfaction à l'égard de ce que je fais, la fébrilité à l'égard de mon regard sur les circonstances. Si, par exemple, je passe mon temps à démarrer en retard et à finir en retard, alors peut-être qu'il y en aura certains ou certaines qui seront en colère contre moi. C'est ça la réalité rationnelle qui débouche sur une réalité émotionnelle. Mes émotions ne viennent pas de nulle part, mes émotions sont finalement le fruit de ce que je pense. De sorte que le problème n'est jamais chez l'autre. Ah, je ne m'entends pas avec quelqu'un. Mais le problème, il n'est pas chez l'autre. Le problème, c'est que je ne m'entends pas. Le problème, c'est que peut-être que je n'entends pas ce que je vis, je n'entends pas mes émotions. Hein, je ne m'entends pas bien avec mon conjoint, etc. Et bien comprendre en fait ces deux familles d'émotions, c'est me donner les moyens de mieux m'entendre, de mieux me comprendre. Alors, pourquoi faire peut-être arbitrairement ces deux familles qui découlent de la justice et du prix? La justice, le prix. On pourrait dire que de la même manière que Dieu est lumière, 1 Jean 1 verset 4 ou 5, 4 je crois, et Dieu est amour, 1 Jean 4, 8. Hein, il y a ces deux grands pôles, en fait. Alors, de la même manière que Dieu est lumière, Dieu est justice. La justice, je ne sais pas si je vous l'ai déjà proposé, c'est l'arbitrage de Dieu qui est selon la vérité. Autrement dit, à l'égard de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, Dieu compare et Dieu me dit, c'est vrai, donc c'est juste. Hein, la justice, c'est l'arbitrage de Dieu qui est selon la vérité. Dieu est amour, et de ce fait, Dieu aime, Dieu apprécie. Comment Dieu peut-il aimer l'homme loin de lui? L'homme ennemi, Colossiens 1:21, vous étiez autrefois ennemi de Dieu dans vos pensées et dans vos actions. Comment Dieu peut-il aimer l'ennemi? Eh bien, c'est simplement parce qu'il l'apprécie, parce qu'il apprécie dans celui ou celle qu'il a créé, il apprécie l'ensemble de ses qualités. Alors Dieu est juste, Dieu est amour. On pourrait voir dans ces deux grands pôles les deux grandes dimensions de Dieu, avec la lumière ou la vérité, ce qu'il fait, et avec l'amour, ce qu'il est relationnellement, il relationne. Autrement dit, dans la vie, il y a toujours ces deux grands pôles, le pôle relationnel et le pôle actionnel. Tite 3, verset 4, « Quand la bonté de Dieu, la bonté, c'est le caractère de ce qui est bon, c'est ce qui fait, et son amour envers les hommes sont apparus. » Son amour envers les hommes, c'est son côté relationnel, ce qu'il est, mais ce qu'il communique de lui-même. Alors voilà, deux grands pôles qui donnent lieu à deux grandes familles d'émotions. Quand on comprend en fait qu'on a besoin de vivre dans ces deux grands pôles, la justice et l'appréciation, alors on peut rentrer dans la construction de notre bonheur et dans le fait qu'on ne participe pas à notre malheur. C'est donc ce qu'on va voir avec ces six fois trouver. Trouver la paix. Romains 12, 19. Romains 12, 19, c'est « Étant en paix les uns avec les autres, pour autant que cela dépende de vous. » Autrement dit, on voit ici, dans ce fait de trouver la paix, un principe de responsabilité qui est évident, pour autant que cela dépende de vous. On voit aussi que, vous savez, dans Romains, il y a 12 fois la paix et 12 fois la colère, et 53 fois la justice. Et le thème de Romains pourrait être, comme nous dit Romains 5, verset 1, « Ayant été justifié sur le principe de la foi, hein, ayant été justifié finalement parce que Dieu, par la foi, nous a donné cette possibilité, alors nous avons la paix avec Dieu. » C'est donc la justice, du point de vue relationnel, qui procure la paix. Hein, ce qui était injuste entre Dieu et moi a été rendu juste et je suis en paix avec lui. Quelle est la différence dans le tableau entre la paix et la sérénité? C'est que je suis en paix avec quelqu'un, alors que je suis serein quand quelqu'un parle, quand quelqu'un n'est pas là, quand, etc. La sérénité, elle concerne les circonstances, alors que la paix concerne les personnes. Trouver la paix. Trouver la paix, c'est donc faire en sorte que, entre autrui et moi, entre mon prochain et moi, que les choses soient justes. Est-ce que les choses sont justes entre vous et moi? Alors, dans ma perception, je m'applique à ce que les choses soient justes. Je m'applique à vous donner des choses compréhensibles. Je m'applique à les reformuler pour que vous puissiez bien les comprendre. Je m'applique à tenir compte de l'expression de vos regards et je me rends compte quand finalement soit vous n'y êtes pas du tout, soit vous êtes au contraire tendu parce qu'en fait vous ne comprenez pas, auquel cas il faut que je le reformule. C'est ça être en paix avec les gens. Hein, c'est tenir compte relationnellement parlant de ce qu'ils sont et faire ce qui est juste. Trouver la paix. Trouver la paix, c'est tout un programme. On pourrait passer une heure sur trouver la paix. D'ailleurs, sur mettons-en-commun.free.fr, hein, vous avez à la rubrique accompagnement pastoral et faculté Jean Calvin, la conférence sur trouver la paix et les questions qui ont résulté avec le PowerPoint que j'ai présenté. Hein, mais quand vous aurez le temps, vous verrez ça, en tout cas dans votre année de licence, je ne vous conseille pas de le faire, ça prendra trop de temps. Mais donc, trouver la paix, c'est par exemple, regarder ces 12 mentions de la paix dans Romains. Trouver l'amour. Alors l'amour est 40 fois dans les épîtres de Jean, 1, 2, 3 Jean, et il est 140 fois dans les épîtres. Autrement dit, les épîtres de Jean développent ce thème de l'amour de manière tout à fait précise, et j'ai simplement retenu cette expression de 2 Jean verset 6, « Aimer, c'est marcher dans ses commandements ». Waouh ! Quelle définition, hein ! On pourrait dire que nous, on aurait préféré une définition plus romantique. Hein. Aimer, c'est être transporté par le sentiment que l'on éprouve à l'égard de quelqu'un. Eh bien non. Si vous regardez les quelques définitions de l'amour qui sont dans la Bible, hein, que ce soit par exemple 1 Jean 4, verset 10, je crois, hein, ceci est l'amour, en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous aima, et qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Si vous regardez les manifestations de l'amour dans 1 Corinthiens 13, tout cela procède d'un acte, d'une intention clairement identifiée. Autrement dit, l'amour est un projet, et l'amour, c'est à la fois le projet en fait, de respect, d'accueil, etc., de notre prochain, mais c'est aussi tout l'état d'âme qui en résulte. Mais le problème, c'est que l'état d'âme ne qualifie pas forcément notre projet. Quand je suis en train d'aimer mon ennemi, ce que je ressens n'est pas forcément à la hauteur de ce que je fais. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ça va? Pas trop. Hein? C'est-à-dire que si on définit notre qualité d'amour à ce que je ressens, ça ne marche pas. Parce que si je suis en train d'aimer mon ennemi, quelqu'un qui me fait du mal, si je suis en train de l'aimer, ce que je ressens, ça ne va pas être quelque chose de génial. Parce que quand je suis blessé, je ne peux pas ressentir des choses très agréables. Mais si je suis en train de l'aimer, alors mon projet d'amour, oui, lui a toute sa qualité. Et aimer, c'est marcher dans les commandements de Dieu. C'est marcher dans la vérité. La satisfaction. Intéressant de voir que ce mot, satisfaction, dans le Nouveau Testament, ne se trouve qu'en Colossiens 2, 23. Curieux. C'est pour ça que, pour moi, l'épître aux Colossiens, c'est l'épître de la satisfaction. Et encore, c'est un terme qui est plus ou moins péjoratif, être satisfait de là où notre tendance charnelle peut trouver son plaisir. Mais la satisfaction, c'est ce qu'on éprouve en discernant la volonté de Dieu. Colossiens 1, 9, Paul prie pour que les Colossiens soient pleins de la connaissance de la volonté de Dieu. Colossiens 4, verset 12, Épaphras prie pour vous, pour que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la connaissance de la volonté de Dieu. Autrement dit, la perfection, c'est de faire ce que Dieu nous demande, on le verra avec Job tout à l'heure, mais le discernement de la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui nous est accessible, on le verra la semaine prochaine, et on va avoir cette satisfaction quand nous faisons ce que Dieu nous demande. Trouver la satisfaction, c'est ça. J'ai intitulé l'Épître aux Colossiens l'Épître des 10 commandements. Il y a des impératifs et on peut les serrer entre, je crois, Colossiens 2, verset 6 et Colossiens 4, verset 7 ou 8. Il y a 10 impératifs et qui, en plus de ça, sont symétriques, comme souvent dans la littérature hébraïque, les structures en chiasme. Oui ? Une question, oui, vite.
Par rapport à la notion de satisfaction, en fait, pour moi, ça serait dangereux. Pour moi, en tant que pastoral, je ne pourrais pas aller dans ce sens-là, dire qu'il faut d'abord que vous trouviez satisfaction dans ce que vous faites. Parce que pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus, haut qui doit transcender tout ça, c'est la satisfaction en Dieu lui-même.
C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que j'ai bien dit que Colossiens était encadré en 1-9 par le discernement de la volonté de Dieu, et en 4.12, par le discernement de la volonté de Dieu. Autrement dit, la satisfaction ne se trouve que dans l'obéissance. Je fais ce que Dieu me demande. Mais on en reparlera, d'accord ? On va en rester là pour l'instant, parce qu'il faut que je finisse quand même mon truc, sinon je n'y arriverai pas. Et on en reparlera, mais on en reparlera la semaine prochaine dans le rôle des pensées et le ministère glorieux de la conscience. Comment vivre pleinement ma réalité d'enfant de Dieu avec la connaissance de la volonté de Dieu qui m'est révélée. D'accord ? On va en parler et on peut en parler à la pause volontiers. Trouver le plaisir. Galates 5, 18, la problématique des Galates. Galates est, à mon sens, certainement la première lettre que Paul écrit. Et et le problème des Galates, de ces judéo-chrétiens qui ont été dispersés, c'est qu'en fait, ils veulent faire plus que ce que Dieu leur demande pour être certains qu'ils sont justes devant Dieu. Ils veulent ajouter quelque chose et de ce fait, ils se trouvent dans une contrainte qui les amène à la frustration. Paul leur dit en Galates 5, 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Et donc, nous avons, nous, en étant conduits par l'Esprit, être dans cette liberté de l'Esprit, la liberté de l'Esprit nous donnant tout ce que nous dit Galates 5, 22, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit est un bouquet de fleurs, un bouquet de choses, et que je transcris comme étant le fruit de la liberté qui est le plaisir. Plaisir, le contraire de la frustration. Ça aussi, on y reviendra, je vous le dis comme ça, je vais finir ici avec la sérénité. Dans 1 Pierre 1, 22, 1 Pierre 4, 19, on a vu ces choses-là dans la première réflexion sur 1 Pierre, trouver la sérénité. Ce mot sérénité n'apparaît pas dans l'épître de Pierre, mais les deux mots clés qui se retrouvent dans l'épître de Pierre, c'est souffrance et obéissance. Trouver la sérénité, c'est finalement être obéissant face à la souffrance et comprendre avec 1 Pierre 1, 22, comment purifier mon âme. Comprendre avec 1 Pierre 1, 22 que je purifie mon âme dans l'obéissance à la vérité. Je comprends ce qui est vrai et je le mets en œuvre. Avec 1 Pierre 4, 19, je vais remettre mon âme à un fidèle créateur, comment ? En faisant le bien. Là aussi, je suis dans l'obéissance, et de ce fait, je vais, par l'obéissance, comprendre que ce ne sont pas les circonstances qui me donnent d'être heureux, mais que c'est l'obéissance qui va me procurer la sérénité. Avec Philippiens 3, verset 1, trouver la joie, il y a, avec donc Philippiens 3, cette expression « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », il y a 12-13 fois l'expression de se réjouir dans Philippiens. Et puis il y a une ou deux fois la tristesse aussi. Et se réjouir, c'est considérer que les circonstances ont un prix dans la main de Dieu. Se réjouir, c'est... Paul dit, Philippiens 2, 17, « Si même je sers d'offrande ou de libation pour le sacrifice, hein, » la libation, c'était le liquide d'huile, de vin qu'on versait en plus du sacrifice. Philippiens 2, 17, Paul dit, « Si même je sers de libation, » c'est-à-dire qu'en fait, en plus du sacrifice du Christ, ben c'est pas grand-chose ce que je vais vivre. Mais si même je sers de libation, alors je me réjouis et je me réjouirai, et vous aussi, vous pouvez vous en réjouir. Autrement dit, regardons les circonstances comme étant utiles dans la main de Dieu. C'est ça, trouver la joie, pouvoir dire, voilà, il m'est arrivé quelque chose, je peux me réjouir de ce que ces circonstances sont dans la main de Dieu, même si ces circonstances me paraissent contraire ou me blesse, ou etc. Construire son bonheur, c'est donc savoir comment produire ces états d'âme qui sont agréables, et c'est aussi voir s'estomper les émotions douloureuses. 1 Jean 4, 18, c'est l'amour parfait chasse la crainte. C'est pour ça que, à l'égard de la colonne sur l'appréciation, colonne de droite, et à l'égard du rang et personne, j'ai mis amour et peur. L'amour parfait chasse la crainte, crainte du grec phobos, pour dire que ce n'est pas une petite peur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire l'amour parfait chasse la peur ? Ça veut dire que si, par exemple, je suis gêné à l'égard de Denis, je vais aller vers lui et vouloir lui parler, mais si je veux cacher quelque chose, si je ne suis pas dans l'amour, alors je vais entretenir la peur. Pourquoi est-il dit en Apocalypse 21, verset 8, que les timides n'entreront pas dans la Nouvelle Jérusalem. Hein? C'est parce que la timidité, c'est la volonté de cacher quelque chose en soi. Si je veux cacher, je ne suis pas dans l'amour, en fait. Et souvent, je veux cacher parce que je ne veux pas que soit connu en moi quelque chose. Je ferais mieux de le régler et de le faire connaître. Et la timidité, hein, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, hein? Hein, qui est, je crois, dans... soit dans 2 Timothée 1, verset 5, ou Tite 1, verset 5, je ne me souviens plus. Je crois que c'est 2 Timothée. Donc, nous avons à apprendre à l'autre à ne pas entretenir la colère, l'insatisfaction, la fébrilité, la peur, la frustration, la tristesse, etc. Il reste quelques minutes, on y va. On reprend notre question, ou est-ce que c'est plus clair ?
Non, en fait, c'était juste... Ah.